Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous invite à lire avec moi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, une partie du sermon sur la montagne. Combien le Seigneur insiste pour que nous puissions vivre certaines choses. Car croyez-moi, Dieu est beaucoup plus intéressé que nous à ce que nous rencontrions sa grâce. Matthieu, chapitre 7, verset 7. Des versets simples. Tellement simple presque que peut-être on aurait tendance à les zapper, comme on dit, alors qu'on devrait quand même réfléchir à ce que Jésus veut que nous comprenions. Matthieu chapitre 7, verset 7e. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. Donc ce texte ne peut pas être plus clair. Si vous demandez, vous recevrez. La question, c'est de savoir comment on cherche. Ce matin, il m'est venu une idée. Imaginez-vous quelqu'un qui voudrait trouver de l'eau et qui chercherait de l'eau avec un cerf-volant. Qu'est-ce que vous diriez? Quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Ah, je cherche de l'eau. Bon, moi je pense que c'est plus intelligent de chercher de l'eau avec une pelle et une pioche. Vous êtes d'accord avec moi? Ça fait rire, ça fait sourire. Mais laissez-moi vous dire que c'est certainement la raison pour laquelle beaucoup de gens ne trouvent pas, c'est parce qu'ils ne cherchent pas comme ils devraient chercher. Dieu nous a laissé sa parole. Et avec sa parole, nous le rencontrerons. Nous le connaîtrons davantage. Ce matin, quand je préparais ce moment, je pensais à Zachée. Un jour, cet homme, je ne sais pas quel âge il avait, un jour il a dit, tiens, il y a Jésus qui passe aujourd'hui dans la ville, je voudrais savoir comment est Jésus. Et il nous a dit qu'il cherchait à voir comment était Jésus, qui était Jésus. Alors comme il était petit, il s'est débrouillé et il a couru sur un arbre parce qu'il en a déduit, vu la foule, que le Seigneur devait passer par cet endroit-là. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, cet homme qui avait des problèmes, il cherchait et quelques heures après, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus était dans sa maison. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Cet homme, il a calculé, il a réfléchi, est-ce que ça a pris des jours? Est-ce qu'il savait que Jésus allait passer? J'en sais rien. Que ça ait pris des jours, que ça ait pris quelques minutes, une chose est sûre, entre le moment où il a décidé de chercher le Seigneur et le moment où le Seigneur lui a dit, devant son sycomore, écoute Zachée, en plus il connaissait son prénom, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison, une chose est sûre, il ne s'est passé que quelques heures. Et cet homme a eu la joie de recevoir le Seigneur Jésus dans sa maison. Quelle belle expérience! Vous ne trouvez pas que c'est une belle expérience? Mais cette expérience, nous pouvons la vivre nous aussi, sans avoir le Seigneur Jésus d'une manière physique dans notre maison, mais nous pouvons bénéficier de sa présence et vraiment entendre ce qu'il a à nous dire. C'est pour ça que vous retrouvez régulièrement, tout le long de la parole de Dieu, de chercher Dieu. Et ce matin, lorsque j'ai prié, j'ai vraiment eu à cœur de vous exhorter à cette affaire-là, de chercher Dieu, mais de le chercher vraiment. Si vous avez remarqué dans la Bible, il est dit, mais si vous le cherchez de tout votre cœur, cherchez le Seigneur. Alors des textes, nous n'avons que l'embarras du choix. On va prendre celui d'Ésaïe 55. Il n'y a que l'embarras du choix. Que l'embarras du choix par rapport à l'importance de chercher Dieu. C'est un commandement. Vous aimez les commandements? Vous aimez les ordres? Pas trop, hein? Les ordres du Seigneur, quand même. Ben, les ordres du Seigneur, si vous n'aimez pas les ordres du Seigneur, vous n'avez rien compris. Car je peux vous dire que les ordres du Seigneur sont de véritables bénédictions. Et que si le monde se mettait à chercher Dieu, je peux vous dire qu'en 24 heures, on passerait de la malédiction à la bénédiction. Croyez-moi. Mais les gens ne veulent pas de la sainteté, de la grâce de Dieu. Donc dans ce chapitre 55 d'Ésaïe, le Seigneur le rappelle au peuple qui a tellement besoin de retrouver certaines choses. Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas vos voies, mes voies, dit l'Éternel. Amen. Donc, revenons-en au texte en premier, avant de revenir sur celui-là. Celui qui me cherche, il me trouve. Et peut-être il y a quelqu'un ce soir qui dit, mais moi je cherche, mais qu'est-ce que vous cherchez? Tiens donc, qu'est-ce que vous cherchez? Ce soir vous êtes venu dans ce lieu, comme disait Jonathan pour le chant, comment on a chanté, j'ai soif de ta présence, mais on a soif de la présence de Dieu, ou on a soif de la bénédiction de Dieu? Qu'est-ce, pourquoi vous êtes venu? Pour une bénédiction ou pour le connaître à lui? C'est une question, en tous les cas. Si vous n'êtes pas capable de donner la réponse, Dieu sait, lui, comment vous êtes venu. Et vous êtes heureux si vous êtes venu d'abord pour sa présence. Après que vous vouliez la bénédiction, est-ce que c'est normal de vouloir la bénédiction? Mais bien sûr, c'est normal. Dieu nous a fait pour nous bénir. Si Dieu a dit, lorsque deux ou trois seront assemblés à mon nom, je serai au milieu d'eux, c'est pourquoi? Ben, c'est pour nous bénir. Que vous le vouliez ou non, la volonté de Dieu, c'est pour nous bénir. Mais ça serait malsain de venir que pour la bénédiction. Parce que beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes se sont approchés pour la bénédiction et ils l'ont obtenue. Mais après avoir obtenu la bénédiction, ils ont oublié la grâce de Dieu. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Quelle grâce de chercher le Seigneur. Vous savez, il m'arrive de temps en temps de regarder comme ça sur Internet les actualités. Vous savez, vous tapez Google Actualité, vous avez en 3 minutes, vous avez les actus. Et hier soir, j'avais quelques minutes, je me suis dit, tiens, tu vas regarder. Et j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui étaient décédées. Et entre autres, il y avait un jeune de 25 ans, qui a gagné un télécrochet. Enfin, je me suis dit, tiens, et il chantait prière en C, en Do. Tiens. Il a chanté, il a presque gagné un télécrochet jeudi dernier, je ne sais pas, une émission de variété. Et il chantait prière. Tiens, je me suis dit, tu vas aller voir ce que c'est cette prière. Et j'ai tapé traduction. Vous savez aujourd'hui, avec Internet, vous avez tout. Écoutez bien. Je tape donc, tac, traduire la chanson prière, in C. Et j'ai regardé la traduction de cette chanson. C'est une infamie. Une insulte à Dieu. Vous le ferez. Vous n'avez pas besoin de chercher loin. Vous traduisez cette chanson. Et vous allez voir comment ce jeune homme parle à Dieu. Insulte Dieu. Il a chanté ça jeudi et vendredi, il s'est tué. Mais je me suis dit, mais comment des gens peuvent en arriver là, à insulter Dieu de cette façon? Parce que là, au niveau de l'insulte, c'est costaud. Hein. Et je ne sais pas si les gens y réfléchissent à la portée de ce qu'ils disent. Il va jusqu'à dire que Dieu ne se pardonnera pas de tout ce qu'il a fait. Que Dieu, quand, je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'abomination et la folie dans laquelle ce jeune homme se trouve. Et à tous les gens qui admirent, et je suis persuadé qu'il y a même des chrétiens qui écoutent cette chanson. Je suis persuadé. Et qu'ils n'ont même pas pris le temps de chercher ce que disait cette prière. J'en suis certain, il y en a peut-être ici d'ailleurs. C'est pourquoi je vous dis ça. Pour vous expliquer que les gens ne cherchent pas comme il faut. Il faut chercher sérieusement. Si vous cherchez Dieu, vous le rencontrerez. Il y a des gens qui disent, si Dieu veut que je le rencontre, ben je le rencontrerai. Si Dieu veut me sauver, qu'il me sauve. Non, il y a déjà longtemps que le Seigneur a tout fait pour vous sauver. Et lui, il veut vous sauver. Lui, il veut que vous le rencontriez. Lui, il veut vous faire du bien. Lui, il ne veut pas que vous alliez à l'enfer. Il faut chercher le Seigneur. Dans l'Ecclésiaste, il dit, mais cherchez-le avant qu'il ne soit trop tard. Peut-être qu'il y a quelqu'un ce soir qui dit, mais oui, je suis venu, j'ai besoin d'aller dans l'église. Mais est-ce que vraiment vous cherchez Dieu? Est-ce que vraiment vous le cherchez à lui? Est-ce que vous cherchez à faire la paix avec lui? Ou est-ce que vous acceptez tout un tas d'âneries que la religion propose? Vous savez, l'autre jour, j'ai entendu que l'Église, il faut le dire, l'Église catholique était en train de faire des colloques pour voir comment on allait faire avec les homosexuels, les accepter. Vous l'avez vu. Bien sûr, ce n'est pas passé. Ça fait une semaine qu'ils y travaillent. Pour le purgatoire, vous savez ce que c'est le purgatoire? Vous savez ce que c'est? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est? Le purgatoire, c'est une doctrine de l'Église catholique qu'ils ont instituée en 1032, je crois, qui consiste à nous faire croire que lorsque quelqu'un est mort, on peut, même s'il n'a pas accepté Jésus, on peut le faire sortir du purgatoire. C'est-à-dire qu'il y a, dans la Bible, il y a deux lieux. Il y a le paradis et il y a l'enfer. Quelqu'un qui accepte Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur, il va au paradis. Quelqu'un qui n'accepte pas Jésus-Christ, il va en enfer. Ce n'est pas plus compliqué. Quand vous regardez l'Église catholique jusqu'à Saint-Augustin, jusqu'au 5e siècle, c'était comme ça. Et après le 5e siècle, on a commencé à discuter de la possibilité d'un purgatoire. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas accepté Jésus, ils ne vont pas au paradis, mais ils ne vont pas en enfer non plus. Ils vont dans un purgatoire et, par certaines démarches, on peut les faire sortir du purgatoire pour qu'ils aillent plus tard au paradis. Bon, il faut prier et il faut surtout foncer. Alors, il ne faut pas rire parce que c'est grave. Parce que des millions de gens ont cru qu'après leur mort, ils pourraient utiliser leur argent pour qu'on les sorte de ce lieu de tourment mitigé. Alors ça peut durer 100 ans, 200 ans, 100 millions d'années, mais on peut les sortir. Vous savez combien de temps l'Église catholique a travaillé pour arriver de la première notion du purgatoire? Parce que c'est avec tout ça que le Vatican a été construit. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais c'est pour que vous compreniez. Ça a mis presque 600 ans pour que ça soit voté par l'Église catholique. Il y a des gens patients. 600 ans pour en arriver à cette abomination, car c'est une abomination de mentir aux gens de cette façon-là, en leur disant que c'est pas grave s'ils n'acceptent pas Jésus, de toute façon, même s'ils ne sont pas chrétiens, on pourra les sortir. Moi, je l'ai vu souvent, ça. Je l'ai entendu. Je suis un ancien catholique, et je peux vous dire que j'en ai entendu des choses à ce niveau-là. Croyez-moi, c'est une abomination. Après la mort vient le jugement. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas vous amuser avec la parole de Dieu. Si la parole de Dieu dit qu'après la mort, notre sort il est joué. C'est sur la terre. C'est pour ça qu'un jour les pharisiens ont blasphémé. Vous ne vous rappelez pas ce jour où il y avait une foule qui était rassemblée et puis tout d'un coup on fait descendre par le toit, ça n'avait rien à voir avec nos habitations en Occident, ils ont fait descendre par le toit un paralytique, vous savez, sur un lit. Alors imaginez-vous, par quatre cordes, un gars qui descend. Et les gars, ils voulaient à tout prix, eux, ils cherchaient. Vous voyez ce que je veux dire? Ils cherchaient. Ils sont arrivés, ils ont calculé leur coût, mais ils voulaient que cet homme se retrouve le plus près possible de Jésus. Et ils sont arrivés. Donc ça a perturbé un petit peu la réunion. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que quelqu'un pourrait me raconter l'histoire? Il a dit, Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés. Les pharisiens qui étaient là, les religieux, ont dit, mais pour qui ça prend? Mais pour qui ça prend? Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. D'un côté, ils avaient presque raison. Mais pour qui ça prend? Il pardonne les péchés. Jésus, connaissant leurs pensées, les regarde et leur dit, mais lequel est le plus aisé de dire? Tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi, prends ton lit et marche? Alors, c'est une question qu'il leur pose. Vous savez que Jésus a souvent posé des questions. Mais au fait, c'est quoi le plus facile? Est-ce que c'est le plus facile de dire à un paralytique, tes péchés sont pardonnés? Ou de lui dire, prends ton lit, lève-toi et marche? C'est une question que Jésus pose, donc c'est excellent. Alors, c'est quoi le plus facile? Qu'est-ce que vous répondriez-vous? Comment? Pardon?
Ben oui, le plus facile pour Jésus, c'est prendre ton lit. Pourquoi? Parce que pour pardonner les péchés, il fallait mourir au calvaire. Croyez-moi, pour Jésus, c'était beaucoup plus facile. Ça dépend. Bien sûr que pour les pharisiens, c'était plus facile de dire « tes péchés sont pardonnés ». Mais cet homme qui venait pour la guérison, qu'on le veuille ou non, il était d'abord venu pour le salut de son âme. Quelle intelligence! C'est pour ça qu'on ne peut pas, on ne peut pas ne pas venir pour la bénédiction. Mais on doit d'abord s'occuper du salut de son âme. Et quand on voit combien le vice a poussé certaines religions à mettre six siècles, pour faire aboutir une loi perverse. Laissez-moi vous dire que ce qui se passe aujourd'hui, ça ne mettra pas 6 siècles. Vous inquiétez pas, ça ne mettra pas 6 siècles. Mais à l'affaire de 1 an ou 2, croyez-moi que ça sera bouclé. Tout ça pour vous dire qu'on détourne les gens de Dieu à la place de les approcher du Seigneur. Et Jésus sait que le plus important pour un homme, ce n'est pas sa guérison, ce qui est physique, c'est sa guérison spirituelle. Vous vous rappelez cet autre paralytique aussi qui était malade depuis 38 ans. 38 ans! Et Jésus a été le voir à la piscine de Bethesda. À la piscine de Bethesda, c'est un endroit où de temps en temps, il y avait quelque chose de bizarre qui se passait. C'est qu'un ange descendait et il touchait l'eau. Et le premier qui se jetait à l'eau, il était guéri. Et puis Jésus arrive, personne ne sait que c'est Jésus, c'est ce qu'on en déduit. Et Jésus s'approche d'un de ses gars, parmi cette foule d'aveugles, de paralytiques, etc. Et il dit à ce paralytique, « Veux-tu être guéri ?» Question, quelle question. Demandez à un gars qui est malade depuis 38 ans, « Veux-tu être guéri ?» Ça s'apprête à rire, hein, mais quand même c'est Jésus qui la pose, c'est pas de l'humour. Nous, la fois on fait de l'humour, ça tient pas debout, mais Jésus fait pas d'humour. Mais est-ce que tout le monde veut être guéri? C'est la question. Il y a des gens qui ne veulent pas être guéris. Moi j'ai vu des gens, ici j'ai vu un gars, un aveugle qui est venu. Il est venu, et à la 3e ou 4e réunion, il m'a dit « Monsieur Hugo, j'y vois les cantiques. Je ne vois pas grand-chose, mais je commence à voir les cantiques. » La réunion d'après, il arrive sans la canne. Il m'a dit « Monsieur Hugo, il y a quelque chose qui se passe. Le Seigneur est en train de me guérir. » Il est arrivé à la maison, il est arrivé chez lui sans la canne, il y a un voisin qui lui dit « Tiens, tu as fait une drôle d'expérience. » « Eh bien oui, je commence à être guéri. » Ah, « Ah, mais il te fera le signaler à la Côte-Rep, sinon il va falloir travailler. » Le gars, il m'a dit je veux ma pension. » Et le gars, il n'est plus jamais revenu. Moi, ça ne m'a pas fait rire. Ça ne m'a pas fait rire parce que le gars, il ne voulait pas la guérison, en vérité. Il voulait le pognon pour ne pas avoir besoin de travailler. Et quand Jésus pose la question « Veux-tu être guéri ?», c'est des questions sérieuses. Nous, on est là. D'ailleurs, quand il le retrouve plus tard dans le temple, il le retrouve dans le temple. Ça prouve que le gars, il avait fait une démarche spirituelle. Et qu'est-ce qu'il lui dit le Seigneur? Ne pêche pas. Et il ajoute, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Qu'est-ce qu'il y a de pire que d'être paralysé 38 ans? Eh bien, c'est d'aller en enfer. Et quand vous lisez toute la parole de Dieu, vous lisez ces choses avec une grande grâce. Oui, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Mais la parole de Dieu est claire. Cherchez pendant qu'il est temps. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et c'était une grâce. C'était vraiment une grâce, vous ne croyez pas, qu'on arrive à faire descendre ce paralytique. Est-ce que c'était une grâce? Tes péchés sont pardonnés. Est-ce que ce soir, vous allez tous ressortir de ce lieu avec cette assurance que votre péché a été pardonné? C'est la plus grande chose sur la terre, que votre péché soit pardonné. Alors, si vous êtes guéri, tant mieux. C'est merveilleux d'être guéri. Oui ou non? Est-ce que c'est une grâce? Mais bien sûr, d'avoir de faire telle ou telle expérience. Mais combien de gens sont guéris et puis une fois qu'ils sont guéris, ne veulent pas s'occuper de leur éternité? Ils n'y pensent pas à l'éternité. Ils sont tellement dans les ténèbres qu'ils n'y pensent même pas. Moi, il y a un monsieur qui m'a dit dernièrement, « Monsieur Gauss, ce n'est pas vrai. Vous avez dit dans une prédication que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Ce n'est pas vrai. Moi, je ne pense jamais à l'éternité. » Et bien, j'ai dit, « Mais je vous plains. » C'est que vous êtes endurci tellement que si vous ne pensez plus à l'éternité, ça va vraiment mal pour vous. Mais il ne mentait pas. Il ne mentait pas. C'est la preuve qu'on peut être tellement endurci que l'on ne pense jamais aux choses de Dieu. Je vous faisais allusion à ce jeune homme-là de 25 ans qui s'est tué le lendemain de son télécrochet. Laissez-moi vous dire que pour chanter une chanson comme ça, il faut vraiment croire que Dieu n'existe pas. Mais enfin, la façon dont il lui parlait, c'est un peu inquiétant. Vos péchés sont-ils pardonnés? Vous avez besoin du pardon des péchés. Tous, on a besoin du pardon des péchés. On est tous des pécheurs. On est tous injustes. On est tous mauvais. On a tous fait le mal. On est tous corrompus à cause du péché d'Adam. Le péché est entré dans le monde et que personne ne dise « Moi, je suis mieux qu'un tel. Moi, je n'ai pas tué. Moi, je n'ai pas fait ceci. Je n'ai pas détourné des millions d'euros. » C'est sûr, on ne les avait pas. Mais je veux dire, si on les avait eus. Et tous nous avons besoin du pardon. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et c'est quand qu'on peut le trouver? Eh bien, c'est sur la terre. C'est pour ça que Jésus a dit à ce paralytique, aux pharisiens qui étaient scandalisés parce que Jésus pardonnait. Ben oui, il était Dieu. Vous croyez que Jésus était Dieu? Bien sûr. C'est pour ça qu'ils étaient furieux parce que Jésus, en pardonnant, bien sûr, s'identifie à Dieu. C'est comme Thomas, quand Jésus lui a dit, mais voilà, il y a une maison dans le ciel, et Thomas, il a dit, mais comment ça se fait? Comment Dieu peut-il venir sur la terre? Parce que bon, que l'homme aille à Dieu, c'est une chose, mais que Dieu vienne sur la terre pour Thomas, pour Thomas, lui comprenait, ou Philippe, il comprenait pas trop, et Jésus lui dit, mais il y a si longtemps que je suis au milieu de vous, et tu ne m'as pas connu, celui qui m'a vu, a vu le Père. Et le Seigneur, seul le Seigneur a le pouvoir de pardonner les péchés. Et il veut que vos péchés soient pardonnés. Il a le pouvoir de pardonner les péchés. La première parole qu'il a prononcée au calvaire, avec tout ce qu'il venait de subir, je ne sais pas si vous réalisez ce que Jésus venait de subir depuis 24 heures. Et la première parole qu'il prononce sur le bois de la croix, alors qu'il vient d'être crucifié, qu'il vient de vivre des moments que on ne peut même pas comprendre, puisque dans le jardin de Gethsémané, il a failli mourir, qu'il suait des grumeaux de sang. Personne ne peut comprendre l'agonie du Seigneur. Et la première des sept paroles qu'il prononce sur le bois de la croix, c'est « Père, pardonne-leur ». C'est quelque chose de... Les officiers, les brigands qui ont dû entendre ça, ils ont dit « Mais c'est pas possible ». La première parole qu'il choisit de prononcer avec tout ce qu'il venait de subir, c'est une parole de pardon. Il aurait pu dire « Bon, avec ce qu'ils m'ont fait vivre, je vais attendre qu'ils me demandent pardon ». Est-ce qu'il avait le droit de le faire? Est-ce qu'il avait le droit d'attendre « Bon, avec ce que je viens de subir, je vais attendre qu'ils me demandent pardon ». Est-ce qu'il aurait pu? Bien sûr qu'il aurait pu, il était Dieu. Et il a pardonné. La première chose qu'il fait, dans un état de souffrance indescriptible, « Père, pardonne-leur ». Donc, du côté de Dieu, tout est fait, que son nom soit béni. Est-ce que ça vous rassure que de son côté, tout est accompli? Quelqu'un ce soir, n'importe qui, le plus mauvais, le plus méchant, peut dire « Mais moi, je me suis moqué de Dieu toute ma vie, je me suis moqué de Dieu tout le temps. Est-ce que je peux être pardonné ?» Eh bien oui. Que le méchant retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Ça fait que ce soir, vous devez prendre ces choses au sérieux. Vous voyez ce paralytique, bon, il est parti guéri, mais il est surtout parti sauvé. Les 10 lépreux, ils sont tous venus, ils avaient entendu parler. Vous savez, on peut vivre ces choses. Moi, il y a un frère qui m'a téléphoné ce matin, qui donnera son témoignage dimanche, qui a fait une expérience pendant un culte il y a 15 jours. Je pense qu'il va vous donner son témoignage. Il m'a dit, je suis très timide et tout, mais ça ne fait rien. Je pense qu'il va donner son témoignage. Et vous allez voir que Dieu guérit et que Dieu délivre. Ça ne vous encourage pas? Quelle bénédiction! Donc, ça peut se multiplier. Et des gens, dans un moment comme celui-ci, peuvent faire des expériences de délivrance extraordinaires. Sur les 10 lépreux qui avaient entendu que Jésus faisait des choses merveilleuses, il y en a 10 qui se sont approchés et Jésus leur dit, voilà, mais allez vous montrer au sacrificateur que vous êtes guéris. Il n'était pas. Mais Jésus avait dit, allez vous montrer, ils le font, ils obéissent. Aujourd'hui, on aurait dit, oh, pop, 2 minutes. Guéris-nous, puis après on verra. Les gens n'ont pas la foi. Les gens n'ont pas la foi. Quand Jésus dit quelque chose, faites-le. Même si vous ne comprenez pas. On l'a chanté tout à l'heure, accepter sans comprendre. C'est pas, si c'est un politicien qui vous dit de faire un truc, je vous conseille de ne pas le faire. Mais si c'est Jésus qui vous le dit, vous pouvez le faire. Si le Seigneur dit « repentez-vous », ah non, non, mais moi je ne suis pas venu pour qu'on me parle de repentance. Moi je suis venu pour avoir la paix. Mais si Dieu vous parle de repentance, c'est que la paix, vous l'aurez après la repentance. Parce que des fois on dit « voilà, vous aurez la paix, vous aurez la paix ». Mais la paix pour l'obtenir, il faut parfois demander pardon au Seigneur pour ses péchés. La paix pour la réobtenir, eh bien, il faut la rechercher. Et il nous a dit que ces 10 lépreux ont été guéris. Et que tous, bien sûr, tous contents, il y en a un qui a fait demi-tour, qui est venu rendre gloire à Dieu. Il a fait demi-tour. Et Jésus a dit, mais il n'y a que cet étranger qui est revenu pour rendre gloire à Dieu. Eh bien, il n'y en avait qu'un. Les 10 intéressés, il y en a 9 qui étaient intéressés par la guérison, mais il y en avait un qui était intéressé par le fait de rencontrer le Seigneur. Ce soir, nous devons tous répondre. Pourquoi je suis venu dans la maison du Seigneur en ce 21 octobre 2014 ? Pourquoi je suis venu m'asseoir dans ce temple ? Je sais que certains sont venus pour prier, c'est bien. Mais après la prière, il y a ce moment de partage. Et si vous êtes venu en disant, mais moi, je veux apprendre à chercher le Seigneur et à le chercher comme il faut. Je vous parlais tout à l'heure de ne pas chercher de l'eau avec un cerf-volant. Mais combien de gens cherchent Dieu de la mauvaise manière. Regardez dans le Deutéronome, chapitre 18. Il y a des gens qui cherchent Dieu par les sciences occultes. Il y a des gens qui cherchent Dieu par l'astrologie. Ben oui. Il y a des gens qui cherchent Dieu par le spiritisme. Ces choses-là, est-ce qu'elles sont bonnes? Qu'est-ce qu'en pense Dieu? Deutéronome, chapitre 18, verset 9. On ne cherche pas Dieu n'importe comment, on le cherche selon sa parole. Et si vous cherchez Jésus, vous le rencontrerez. Et si vous cherchez les ténèbres, et vous rencontrerez les ténèbres. Deutéronome chapitre 18, verset 9. « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. » Amen. Oui, amen. On peut dire amen. Vous voyez, quand on cherche Dieu de la mauvaise manière, il y a des gens. Moi, j'ai vu quelqu'un dernièrement qui me dit « je ne comprends pas, dans la maison, il y a des objets qui bougent ». Et j'ai dit « mais vous n'auriez pas pratiqué du spiritisme ?» Si, on a fait tourner les tables, on a cherché. Et bien j'ai dit « mais voilà, il faut vous humilier, demander pardon, afin que ces choses s'arrêtent ». Et la personne, elle croyait que tout ça, c'était du spirituel. Et j'ai dit « mais vous n'avez pas peur depuis ?» Si, j'ai tout le temps peur, j'ai tout le temps peur. Mais voyez, on se moque de Dieu. C'est pour ça qu'on cherche, on cherche Dieu avec la parole de Dieu. Et si vous allez, si vous lisez la Bible, vous verrez ce que Dieu approuve et ce que Dieu désapprouve. Cherchez l'Éternel. Quelqu'un qui cherche Dieu, il cherche par la parole. Tous les gens qui se sont approchés de Jésus, même le brigand sur la croix, le pauvre brigand sur la croix, qui insultait le Seigneur. Tout le monde insultait le Seigneur. Les brigands, les soldats, les magistrats. Alors, eh bien, eux, ils insultaient. Vous voyez, les gens, ils sont pris par le système. Hein. Vous voyez ? Quand, devant le palais d'Hérode, il fallait désigner quelqu'un, on va demander à Jésus qu'il soit délivré. Et puis, non, on va demander Barabbas. Et même les chrétiens, les croyants qui étaient là, eh bien, délivrer Barabbas. Les gens, ils ne sont pas capables de se positionner. Est-ce que vous êtes lâche? Est-ce que vous suivez les autres? Ou est-ce que vous êtes capable de vous positionner devant une foule? C'est important, ça. Est-ce que vous êtes capable de dire non? Moi, je refuse. Même si tout le monde est contre, moi, je suis pour le Seigneur. Dieu attend cela. Quand on cherche Dieu, je crois qu'il nous donne aussi du courage et qu'on est capable de se positionner et de prendre position. Je me souviens, moi, que la première fois que j'étais, après, je me suis converti un mardi. Je l'ai raconté dernièrement à ceux qui veulent prendre le baptême. Je me suis converti un mardi et le dimanche, on avait une réunion de travail avec tout le personnel de la boîte de nuit, je m'en rappelle. Et On discutait pour le mois à venir, etc. Et puis tout d'un coup, le téléphone sonne. Et moi, j'avais lu Matthieu. Je m'étais converti le mardi. J'avais lu le sermon sur la montagne, ce qu'on a lu tout à l'heure. Et j'avais lu « Heureux serez-vous lorsqu'on se moquera de vous ». Je me suis dit, bon, ça ne va pas tarder, je pense. Vous voyez, c'est écrit. Est-ce que c'est écrit, hein ?« Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera ». On comprend de suite que quand on est chrétien, ça va pas aller avec tout le monde. Donc le téléphone sonne et la patronne me dit « Si c'est pour moi, tu dis que je ne suis pas là ». Je me suis dit, je prends le téléphone, je dis « Oui, bonjour monsieur, elle est là, je vous la passe ». Ça jetait un froid devant tout le personnel. Et puis, bon, le téléphone, etc. Elle raccroche. Elle me dit, mais qu'est-ce qui t'a pris? Je t'avais dit de dire que j'étais pas là. J'ai dit, écoutez, arrête. Moi, je suis chrétien. Oh, moi aussi, je suis chrétien. Je dis, pas pareil. Et tout le monde s'est moqué de moi. 6 mois après, la moitié du personnel était converti. Et la boîte de nuit, elle a fermé. Pourquoi je dis ça? Parce que je crois que le Seigneur, il nous fait faire de belles expériences. De belles expériences. Et quand on cherche Dieu, on doit être capable de dire, j'assume. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Est-ce que vous croyez que je le regrette ça? Ils se sont moqués de moi. La fille de la patronne, je me rappelle tout ce qu'elle m'a dit. Elle m'a insulté, la fille de la patronne. Et pourtant, un jour, elle m'a appelé. J'étais ici, à Saint-Agne, pas longtemps. Elle m'appelle, elle me dit « Allô Gérard, bonjour, je t'appelle, c'est Véronique. Je t'appelle pour te dire quelque chose. J'ai donné mon cœur à Jésus et demain je me fais baptiser. Ça te fait plaisir ?» Je dis « Oui, vraiment. » Je ne la reconnaissais pas tellement elle était... Elle me dit « Oui, tu sais, j'ai compris certaines choses. » Et un an après, elle est décédée. J'aurais pu partir dans la boîte de nuit en disant « Moi, je suis chrétien, je m'en vais en catimini. » Bon, j'aurais pu le faire. Mais est-ce que ça vaut la peine de dire « Seigneur, donne-moi du courage ». Un chrétien, quand on cherche Dieu, je crois qu'on cherche ces choses. Il a dit le Seigneur, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Quand on cherche Dieu, on ne cherche pas la bénédiction. On cherche d'abord sa présence. Sa présence nous donne du courage. Qu'est-ce que je dois faire? Je cherche Dieu, bon. Eh bien, je suis malade. Il nous a dit de Asa. Asa, il a cherché Dieu toute sa vie. Et à la fin de sa vie, il a été malade. Il nous a dit que quand il a été malade, il n'a pas cherché le Seigneur. Vous voyez, il y a des choses bizarres dans la parole de Dieu. Mais je crois que quand on est malade, bien sûr qu'on a droit à aller chez le médecin. Mais est-ce qu'on ne peut pas prier Dieu? Est-ce que Dieu ne peut pas nous montrer certaines choses quand on est malade? Moi, je crois que Dieu peut le faire. Oui, il nous faut chercher Dieu parce que le jugement va venir et il ne faut pas prendre ça à la rigolade. Il faut chercher Dieu parce que notre vie ne nous appartient pas, notre âme ne nous appartient pas. Vous vous rappelez ce gars qui avait beaucoup réussi? Il avait beaucoup réussi. Il a dit, bon, oh, mon âme, tu as des biens en réserve pour plusieurs années, mange, bois, réjouis-toi. Et paf, une voix du ciel, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Eh oui, votre âme, elle ne vous appartient pas. Vous avez une maison? Est-ce que vous avez une maison? Elle vous appartient, votre maison. Vous avez une voiture? Est-ce que vous avez une voiture? Elle vous appartient, votre voiture. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez la garder, vous la gardez. Si vous la donnez, vous la donnez. Oui ou non? Mais votre âme, elle ne vous appartient pas. Elle ne vous appartient pas. Et si Dieu dit « Cherchez l'Éternel », c'est quelque chose de sérieux. Vous devez dire « Je vais le rencontrer, le jugement va venir, moi je ne veux pas avoir le jugement, moi je ne veux pas la condamnation, je veux la grâce du Seigneur. » Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, c'est sur la terre. Ne commettez pas l'idiotie de dire « Si c'est vrai, on verra après ». Parce qu'après, ça sera trop tard. Il faut vivre par la foi. La parole de Dieu, elle est là. Et je voudrais ce soir que vous cherchiez Dieu là où vous en êtes. Et je vais terminer avec un texte dans le Deutéronome, chapitre 4. Un texte qui m'a beaucoup aidé parce que c'est un sujet qui est infini presque dans la Bible. Le fait de chercher Dieu. Mais dans le livre du Deutéronome, au chapitre 4, le peuple reçoit une exhortation de la part du Seigneur. Le Seigneur leur explique certaines choses. Alors on va lire à partir du verset 27. Dieu explique qu'ils vont être dispersés. C'est-à-dire ils vont être dans l'épreuve. Deutéronome chapitre 4 verset 27. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples. Vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous amènera. Et là,
vous servirez des dieux, ouvrages de main d'homme, du bois, de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. » Regardez bien le verset 29. « C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. » Voyez au verset 30, « Au sein de la détresse, toutes ces choses t'arriveront. » Quand on est loin de Dieu, on est toujours tant dans les épreuves, dans les difficultés. Et le Seigneur dit, écoute, voilà, voilà ce qui va t'arriver. Mais de là, là dans l'épreuve, là où tu seras, tu apprendras à le chercher. Et tu seras béni si tu le cherches de tout ton cœur. Je ne sais pas, quelqu'un peut-être ce soir dans l'épreuve. Eh bien, Dieu dit, mais c'est de là que tu le chercheras. De là que tu le trouveras. C'est ce que Élisée avait dit un jour, mais où il est tombé le fer? Il est tombé là. Eh bien, lance le bois là. Et il faut savoir où on est tombé. Il faut savoir s'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais pourquoi ça ne va pas? Où c'est que je me suis trompé? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je demande à Dieu? C'est de là. Là où ces choses te sont arrivées. Qu'est-ce que c'est qui ne va pas? Qu'est-ce que c'est qui doit être mis en règle? Qu'est-ce que c'est que je dois faire? Eh bien, si vous le faites, le Seigneur, il vous bénira. C'est de là que tu le chercheras. Vous savez, la parole de Dieu, elle est sérieuse. Quand je vois les gens qui cherchent Dieu dans le spiritisme, mais il ne faut pas s'étonner qu'ils s'enfoncent dans les ténèbres et qu'ils se retrouvent en enfer. Il faut pas... Ce sont des choses. Oh, c'est pareil, c'est pas grave. Je me souviens de cette dame, j'avais été là-bas, on avait fait une mission Albi avec tous les évangéliques, les protestants, les baptistes et tout. Et bon, on avait fait un signé, voici un signé comme ça, avec les adresses de toutes les églises. Et donc, on avait dit aux gens, mais les gens, ils téléphoneront... Écoutez bien, c'est grave ce que je vais vous dire. Et donc, il y a une femme qui m'appelle, me dit, écoutez, est-ce que vous pouvez venir me voir? Je suis à l'hôpital, en asile psychiatrique, je suis en train de faire une démarche avec Dieu, mais je suis troublé. Je suis vraiment troublé. Venez. Alors, j'y vais. Alors, c'est pathétique, il y en a qui vont sourire, mais moi, je n'étais pas content. Elle me dit, voilà, j'ai pris le premier pasteur du signé. Alors je lui dis voilà. Alors la femme, elle voulait être délivrée. Elle était venue à une réunion. Elle croyait que Dieu pouvait la délivrer. C'est bien. Mais voilà, elle avait un problème. Elle fumait. Elle voulait une victoire. Alors elle appelle le pasteur et le pasteur il arrive avec la pipe. Je ne sais pas si déjà si vous vous rendez compte. Deuxième problème. Elle lui dit, voilà, je suis dans l'hôpital, je suis en psychiatrie, je suis vraiment tourmenté par des démons, par des maladies, j'en peux plus, et je voudrais que vous priez le Seigneur Jésus. Oh, écoutez, vous avez trafiqué, vous avez fait du spiritisme, vous avez été voir des magnétiseurs, ben, elle lui a dit, ce qui est important, c'est que vous soyez guéri, que vous allez voir des magnétiseurs, ou qu'on prie Jésus, c'est pas grave. Et cette femme, elle avait compris. Vous rendez compte la responsabilité de cet homme de Dieu, entre guillemets? Et cette femme, elle était furieuse parce qu'elle a dit non, je crois que Jésus a le pouvoir de me guérir, de me délivrer de tabac, de me délivrer de mes démons. Et elle a eu ce réflexe. Mais voyez un petit peu pourquoi le monde est dans les ténèbres. C'est pour ça qu'à un moment donné, le Seigneur dit, écoute, toutes ces choses t'arriveront, tous ces malheurs t'arriveront, mais si de là où tu es, tu me cherches, si tu le fais de tout ton cœur, eh bien tu me trouveras et je te bénirai. C'est pour ça, ce soir, s'il y a quelqu'un qui dit, bon, mais je vais prendre ces choses au sérieux, je vais lire la parole de Dieu, je vais la lire avec mon cœur, je vais chercher Dieu de tout mon cœur, ben Dieu vous aidera. Dieu vous aidera. Il a béni Zachée, qui n'était pas très recommandable, le brigand sur la croix, qui était un mauvais bougre, et tout, que les gens soient bons, mauvais, riches ou pauvres, ça n'a pas d'importance. Mais les gens qui ont cherché Dieu, le Seigneur s'est retrouvé dans leur maison. On va fermer les yeux quelques instants. On va fermer les yeux. C'était une réunion d'évangélisation dans le cadre d'une étude biblique. Mais parce que certains ont besoin d'apprendre ou de réapprendre d'une manière sérieuse à chercher Dieu. Il y a peut-être quelqu'un ce soir qui dit, mais moi j'ai vraiment besoin de que le Seigneur soit dans ma maison. Prenez compte quand Jésus a dit à cet homme caché dans son arbre, Zachée, il faut que je demeure dans ta maison. Quelle grâce. Mais comment vous prenez cette parole si Dieu vous l'adresse? Il faut que je demeure dans ta maison. Bien sûr, ça veut dire que dans la maison,
Il va falloir peut-être faire du ménage. Il va falloir peut-être jeter ceci et cela, et supprimer ceci et arrêter cela. Quand le Seigneur te dit, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison, je peux vous dire que c'est une bénédiction, une grande bénédiction, mais aussi c'est une responsabilité. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui dit, je veux que tu habites dans ma maison, dans mon cœur, Seigneur. Je ne veux pas juste te rencontrer le mardi soir ou le dimanche de temps en temps. Ça me fait du bien, l'Église. C'est bien. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Il veut habiter dans ta maison. Il veut que son nom soit sanctifié dans ta vie. Il veut que quand tu partiras de cette terre, tu partes dans la gloire. Alors on va tout simplement donner l'opportunité à quelqu'un. Vous savez, ce frère qui va donner ce témoignage dimanche, il m'a raconté ce qui s'est passé. Mais je peux vous dire que chez lui, il a prié. Et quand il est venu à l'église, Dieu l'a délivré. Vous entendrez, vous avez entendu un témoignage dimanche, vous en entendrez un autre dimanche. Je dis ça pourquoi ? Parce que quand Dieu dit « cherchez et vous trouverez », ce n'est pas des blagues, c'est la vérité. Le problème, c'est que on cherche de l'eau avec un cerf-volant. Et ça va parler. Mais vous pouvez comprendre que si Dieu te dit « demande-moi et je te donnerai », vous pouvez bien comprendre que ça ne peut pas être une blague. Alors peut-être quelqu'un ce soir a besoin d'être délivré. Cet homme, il avait des angoisses, des craintes à cause d'un problème grave. Et il a été délivré. Vous croyez que ce soir, Dieu peut délivrer quelqu'un ? Mais non, mais franchement, est-ce que Dieu peut délivrer quelqu'un ce soir ? Eh bien oui. Alors, pendant ce chant, dites Seigneur, je vais te chercher. Je ne viens pas chercher la bénédiction. Je viens chercher ton cœur. Je veux t'obéir. Je veux te suivre. Tu vois, tu m'as montré ça par rapport à mon foyer, par rapport à ma maison, par rapport à mon ordi. Il y a des choses sales, il y a des choses souillées. Le Seigneur, il demeure dans des maisons où on fait le ménage. Zachée, il a de suite dit, si j'ai fait le tort à quelqu'un, je m'en occupe. Si j'ai volé, je rends le quadruple. De suite, Dieu peut rester dans une maison comme ça. Alors si vous voulez que Dieu reste dans votre maison, si vous voulez voir sa gloire, eh bien, faites un acte de foi, dit Seigneur, je vais obéir. Et Dieu vous donnera, vous ouvrira, vous rencontrera, que son nom soit béni. Amen.